Après ces mises en bouche, mises en oreille, nous allons poursuivre nos exposés. Le premier intervenant, Francis Combes. Le titre de son intervention est « La poésie française et le surréalisme » ou « Le cadavre dans le placard ». Alors, Francis Combes est éditeur, animateur des éditions Le Temps des Cerises, qui publie une cinquantaine de livres de poésie par année, mais aussi des essais, des livres politiques. Il préside l'Association des éditeurs indépendants, qui s'appelle L'Autre Livre, qui tient, je crois, un salon à l'automne, en octobre, Espace des Blancs-Manteaux. Voilà, c'est ça. Alors, pendant 15 ans, il a été chargé, avec le poète Gérard Cartier, de la campagne d'affichage poétique dans le métro parisien. Et c'est à notre ami Francis Combes, avec qui nous avions discuté à l'époque, que l'on doit l'idée de mettre pour la première fois un poème d'Émile Néligan dans le métro, si tu te souviens bien. On avait au moins une proposition sur la table. Alors, homme d'engagement, il mène en même temps une importante activité en tant que poète. Il a publié lui-même une quinzaine de recueils de poésie, dont La fabrique du bonheur, Cause commune, La clé du monde est dans l'entrée à gauche. Il a participé à de nombreux festivals internationaux, à San Francisco, à Sarajevo. Il traduit également plusieurs poètes étrangers, dont Ayn Brecht et Mayakovsky. Et dans son travail, maintenant, il devient même libraire depuis peu, depuis quelques semaines. Alors, je passe la parole à Francis Combes.
Merci, Claude. Puis merci aux organisateurs, responsable de la Maison de la Poésie de Montréal, de cette invitation, car elle m'a donné l'occasion et elle m'a contraint à une réflexion qui, en vérité, n'est pas aujourd'hui fréquente en France. C'est un questionnement quasiment absent, savoir quelle est l'influence, l'héritage de la poésie surréaliste sur la poésie contemporaine. Et voilà, ça m'a donné l'occasion de réfléchir et c'est toujours une bonne chose de prise. Hein? Alors, j'ai intitulé cette intervention « Le surréalisme et la poésie française d'aujourd'hui » ou « Le cadavre dans le placard ». Le terme de cadavre est évidemment, c'est pas un terme que je prise particulièrement, mais c'est un terme que prisaient les surréalistes. Bon, chacun a en tête ce jeu particulier du cadavre exquis qui boit un verre de vin nouveau, c'est la phrase initiale, jeu popularisé notamment par Prévert, et qui consiste, comme vous le savez, à écrire à plusieurs mains un texte en se laissant guider par le hasard des mots posés avant vous. C'est un peu ce que nous faisons d'ailleurs dans le cadre d'un colloque, parce que finalement, quand on mettra bout à bout toutes ces interventions, ça pourra faire une sorte de cadavre exquis. Mais le terme de cadavre était surtout utilisé par les surréalistes à des fins polémique de condamnation, de malédiction, une façon parfois même de jeter un sort sur ce qui leur paraissait poétiquement, humainement, discrédité, dépassé, mort. On sait qu'en 1924, ils avaient déjà publié un cadavre dans lequel ils réglaient son compte au malheureux Anatole France, avec, je dois le dire, de mon point de vue aujourd'hui, une certaine injustice. Il lui reprochait notamment cette clarté confinant à la sottise la vie des chiens, pour reprendre la formule de Breton, avec toujours chez lui ce sens de la formule définitive, parfois aussi péremptoire qu'une machine à coudre qui se mettrait à dialoguer avec un parapluie sur une table de dissection. Mais les surréalistes, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque, ces jeunes gens qui sortaient effectivement de la boucherie de la Première Guerre mondiale, à laquelle plusieurs d'entre eux avaient pris part très directement, comme médecins aux armées, et ils avaient vu les effets de la boucherie, en sortaient avec le sentiment que tout un monde était ruiné, disqualifié, et que notamment toute une tradition très française de rationalisme positiviste qui dominait la pensée et la culture à cette époque-là, était définitivement discrédité. Donc il y a chez eux au départ cette sorte de révolte contre la clarté, contre la logique que personnifiait Anatole France, Même si la clarté d'Anatole France venait, pour ce qui le concerne, en droite ligne du XVIIIe siècle émancipateur, hein, la philosophie des Lumières et de Diderot. Bon. Mais le terme de cadavre a aussi été repris ensuite lors des règlements de compte internes au groupe, notamment en 1930, dans le pamphlet signé par 12 surréalistes, dont des Snows, Prévert, Masson, je crois Artaud, Bataille, pour essayer de régler leur compte avec Breton. Et j'ai envie d'affirmer de manière un petit peu peut-être paradoxale qu'aujourd'hui, le surréalisme est peut-être le cadavre dans le placard de la poésie française. C'est sans conteste l'aventure, pas simplement artistique et poétique, mais intellectuelle majeure de la culture française au cours du XXe siècle. Elle a produit, ou en tout cas a été l'occasion de s'exprimer, de se lancer pour quelques-unes des œuvres majeures de notre poésie, de notre littérature. Elle a eu des prolongements outre les œuvres, de, comme vous le savez, de Breton, d'Éluard, d'Aragon. Elle a eu des prolongements dans l'œuvre de Prévert, de René Char aussi, hein, d'autres. Et d'Aimé Césaire, par exemple, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Même si chez Aimé Césaire, comme chez Gaston Miron, je crois qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport au surréalisme, c'est que ça devient une poésie dans laquelle l'inconscient est mis au service d'une poésie de la conscience. Ça n'est plus l'arbitraire érigé en valeur absolue. Et puis, c'est un mouvement qui, comme vous le savez ici, évidemment, a eu des échos, des prolongements, des frères, divers, dans différents coins de la planète, de l'automatisme dont vous avez parlé, dont vous reparlerez, au poétisme tchèque, par exemple. Et autant le surréalisme est un mouvement très français dans cette espèce de révolte contre le cartésianisme, qui fait qu'on a du mal parfois à les suivre dans leur développement théorique, autant ça a favorisé une ouverture à d'autres cultures, à d'autres formes d'art, une curiosité, une sorte de cosmopolitisme culturel qui a contribué certainement à sa capacité à essaimer. Mais aujourd'hui, où en est-on avec le surréalisme en France ? Ben pour aller vite, je dirais que bien sûr, il reste des poètes qui peuvent se réclamer du surréalisme, quelques-uns. Des gens fort divers, d'Alain Jouffroy à Vénus Corrigata, par exemple, en passant par des poètes comme Gerasime Luca ou René de Baldia, par exemple, et d'autres sans doute. Bien sûr, il y a encore à Paris un groupe surréaliste qui fonctionne et qui publie par exemple des tracts, malgré l'acte de décès officiel qui avait été prononcé par Jean Schuster en 1969, 3 ans après la mort d'André Breton dans les colonnes du Monde. Et bien sûr, il y a des traces. Mais pour l'essentiel, depuis 50 ans, la poésie française s'est écrite hors, pour ne pas dire contre le surréalisme. Ça peut paraître abrupt comme affirmation, mais je ne la crois pas infondée. Le mouvement a commencé parmi les principaux protagonistes du surréalisme lui-même, qui, très rapidement, finalement, ont pris leur distance avec leur propre invention, leur propre découverte. Sous les effets, évidemment, des circonstances historiques, notamment de la guerre d'Espagne, qui fait que la priorité de la lutte contre le fascisme a semblé l'emporter, et pour des raisons qu'on peut bien comprendre, sur la poursuite des expériences d'écriture automatique ou de l'exploration des trésors cachés du subconscient. Et donc, on a vu Aragon, d'abord Éluard, Aragon se prendre leur distance. Éluard, tout à l'heure quelqu'un le disait, je partage assez ce sentiment, déjà dans Capitale de la douleur et dans ses textes surréalistes, on peut bien sentir qu'il n'y a pas que du surréalisme, il y a aussi déjà, plus qu'en germe, une aspiration à la clarté qui va irradier toute sa poésie et qui va commander son évolution poétique. Et des images qui étaient peut-être des images surréalistes à l'époque, aujourd'hui quand nous les lisons chez Éluard, nous paraissent simplement marquées du sceau de l'évidence. Quand par exemple Éluard écrit « Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux, elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. » Peut-être que c'est surréaliste, mais c'est tout simplement un des plus beaux poèmes d'amour de la poésie française, dont les images nous sont maintenant simples, très perceptibles. Puis bon, on connaît l'évolution d'Aragon, qui dans la période du Crève-Cœur et aux abords de la guerre, renoue avec tout l'héritage de la poésie du passé, l'héritage des troubadours par exemple, renoue avec une poésie rimée, avec la volonté délibérée d'aller à la rencontre du peuple, de se faire entendre du plus grand nombre. Et ce n'est pas un hasard si c'est ce poète-là qui a été porté en chanson à la suite de la guerre. Et ce n'est pas un hasard si ça a permis ce qu'on a appelé la poésie de la résistance ou dans les ténèbres de l'occupation, la poésie a joué un petit rôle, mais un rôle essentiel de mainteneur de la lumière, tout simplement. Mais c'est vrai de bien d'autres, de Desnos, par exemple, qui était sans doute l'un des plus doués parmi les surréalistes et qui, très vite, a pris ses distances parce qu'il était accusé d'avoir cédé à ce vice du journalisme et écrit des Alexandrins, ce qui était vraiment un crime terrible. Mais au-delà de cette génération, qui finalement, c'est elle qui a lancé le surréalisme et c'est elle qui l'a dépassé dans sa propre œuvre pour chacun d'entre eux. Mais quand on voit les poètes qui arrivent après, c'est encore plus marquant. Il y a deux poètes, par exemple. D'abord, il y a eu Follin, mais il y a deux poètes, pour moi, tout à fait majeurs, dans les 50 dernières années du siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est Guilvic et Ponge. On pourrait parler pour eux d'une poésie matérialiste, au sens où, délaissant les nuées de l'imagination et du rêve, territoire privilégié des surréalistes, par réaction, ils s'intéressent, eux, aux objets, aux concrets, aux choses, au monde matériel, pour en dire la poésie, pour dire le rapport que nous entretenons avec lui. Et je crois que cette réaction, qui consiste à retourner, reposer les pieds sur la terre, un peu comme Hanté, pour reprendre des forces, a été très salutaire pour la poésie française. Et elle a donné des suites, notamment du côté de Guilvic, qui a eu beaucoup d'influence sur les poètes qui ont suivi. Outre ce mouvement des poètes, entre guillemets, matérialistes, on pourrait aussi citer tout ce que j'appellerais les nouveaux rhétoriqueurs, qui sont des gens fort différents les uns des autres. Ça va de l'Oulipo, par exemple, et de la poésie de poètes comme Raymond Queneau, des contemporains, évidemment, jusqu'aux groupes divers des années 70, autour des revues telles quelles, Change, Action poétique. Tous ces mouvements, aussi divers qu'ils aient été, certains se prenant parfois très au sérieux, certains étant parfois plus portés à une conception ludique de la poésie, ont quand même pour caractéristique de considérer que la poésie, avant d'être une expérience vitale et personnelle, est une activité artistique qui relève de l'écriture, parfois même laborantine. Je pense par exemple aux poètes des années 70, groupés autour d'Action poétique, qui avaient volontiers repris à leur compte la formule de l'Aragon des années 60, à l'époque du recueil Les Chambres. Aragon a un jour dit, mais il a dit beaucoup de choses sur la poésie, et parfois très contradictoires, la poésie, c'est la mathématique du langage. Hein ? Sauf que je mets au défi quiconque de trouver dans l'œuvre d'Aragon des poèmes qui pourraient se réduire à une mathématique du langage. Même ses vers comptés ne sont pas de la mathématique. Il y a beaucoup de lyrisme, beaucoup de chansons, tout simplement, dans sa poésie. Et certains de ces poètes ont voulu donc faire de la poésie une sorte de science fondamentale qui devait n'avoir que très peu à voir, et même pas à voir, si possible, avec les sentiments, et parfois même avec les idées, et quand bien même cela venait de poètes qui étaient socialement, politiquement très engagés, mais ils étaient engagés aussi dans cette voie expérimentale sous l'influence notamment du structuralisme et d'une certaine lecture, disons, structuraliste du marxisme. Donc, là, on est très très loin des rivages du surréalisme. Et si je regarde les poètes d'aujourd'hui, les poètes de la plus jeune génération, qu'en est-il ? Je voudrais parler avec prudence parce que je ne fais pas partie de cette génération. Moi, je suis né en 53 et on a du mal à voir, qu'on n'a peut-être pas le recul suffisant encore pour savoir ce que vont donner les poètes, les jeunes poètes d'aujourd'hui. Ce qui m'apparaît, c'est qu'un certain nombre des poètes de la jeune génération sont très influencés par le slam et le rap. Peut-être certains d'entre eux pourraient-ils placer leur poésie sous le signe de Rimbaud, mais j'en entends guère qu'ils le fassent, et des surréalistes. Et curieusement, poétiquement, c'est plutôt une génération qui redécouvre la rime, le rythme en poésie, et qui a quasiment abandonné l'image et la métaphore que les surréalistes avaient mis au devant de la scène poétique, au point même que la poésie s'identifiait à la pensée analogique, à la pensée associative et à l'image. L'image a complètement dominé la poésie française du XXe siècle. Aujourd'hui, on produit une poésie sans image, quasiment. Que ce soit du côté des poètes, des jeunes poètes les plus littéraires, les plus universitaires, ou du côté des jeunes poètes populaires qui réapparaissent aujourd'hui à travers un phénomène comme le slam. Et au fond, je me dis que peut-être la rupture la plus importante, elle s'est opérée dans les années 50, quand, après la vague de la poésie de la résistance, on a assisté à cette espèce de reflux, notamment avec l'abandon de toute notion d'engagement. Un surréaliste a joué un rôle dans les polémiques de cette époque, c'est Benjamin Perret avec son texte « Déshonneur des poètes », alors qu'en fait, l'engagement dans la résistance, c'était le fait de gens qui étaient passés par le surréalisme et d'une certaine façon, ils se sentaient fidèles à leur engagement de jeunesse en s'engageant dans la résistance. Mais là, on a des voies qui ont divergé. Et finalement, ce qui a été abandonné dans la poésie d'aujourd'hui, c'est ce sentiment que les surréalistes avaient eux-mêmes hérité du romantisme, à savoir que la poésie devait changer la vie, enfin le vieux mot d'ordre de Rimbaud. Ce sentiment que l'on retrouve dans le romantisme allemand, dans le romantisme français, ce sentiment qui s'exprime dans cette formule qui est la dernière phrase du premier manifeste du surréalisme, l'existence est ailleurs. Finalement, le romantisme, c'est ça, c'est l'insatisfaction quant aux conditions réelles de l'existence et le désir d'un ailleurs, qu'il soit situé dans le passé ou dans le futur, ou dans un ailleurs géographique. Et c'est peut-être ça qui a changé, c'est que je connais bien peu de poètes français aujourd'hui, quand bien même toute leur vie est marquée par la poésie, et quand bien même c'est pour eux un engagement personnel très profond, mais j'en connais bien peu aujourd'hui qui vous diraient d'emblée « la poésie doit changer la vie ». Où la poésie peut changer la vie. Et je pense que pour la plupart des poètes français d'aujourd'hui, et ce n'est pas un procès que j'instruis à mes contemporains, la poésie est une activité de caractère littéraire. Ce qui est quand même exactement le contraire de la démarche des surréalistes. Est-ce à dire pour autant que nous avons tout oublié du surréalisme? Je ne crois pas. Je pense même que, quand bien même on a refusé l'héritage, pour ne pas avoir à payer les dettes peut-être, comme font parfois les enfants ou les petits-enfants, on est héritier, qu'on le veuille ou non. Singulièrement dans certains traits de la poésie française qui demeurent largement partagés. Par exemple, tous les poètes français collaborent plus ou moins fortement avec leur inconscient. Alors vous me direz, ils le faisaient avant le surréalisme, ils le feront après. Tous les temps, les poètes ont laissé venir en eux ce qu'ils appelaient l'inspiration. Finalement, le surréalisme s'est distingué par la tentative de comprendre de manière rationnelle ce qu'était l'inspiration, grâce à l'éclairage notamment de la psychanalyse. Mais peut-être qu'aujourd'hui, après le surréalisme, laisse-t-on parler en soi plus naturellement, de manière plus délibérée. C'est ce que Breton appelait à son tour la bouche d'ombre. Donc ça, c'est une première caractéristique. Il y a une deuxième caractéristique qui fait que l'héritage du surréalisme n'est pas mort, et c'est plus ambigu. C'est que pour la grande majorité des poètes français d'aujourd'hui, la poésie est une affaire interne au langage. Alors vous allez me dire, mais ça, ce n'est pas le surréalisme. En tout cas, ce n'est pas conforme à la lettre, et ça pourrait même être pris comme une dérive par rapport à la conception initiale du surréalisme. Certes, mais moi je pense que cette dérive était inscrite dans le surréalisme lui-même, qui quand même a glorifier l'autonomie de la pensée inconsciente. Et pour beaucoup de poètes aujourd'hui en France, la poésie trouve sa source dans les associations d'images, d'idées, de mots qui naissent inconsciemment quand même. Et c'est quand même quelque chose de... C'est pas la tradition de la poésie française. Si vous prenez la poésie du XVIIe siècle, les grands tragédiens, enfin Corneille, La Fontaine, jusqu'à Hugo avec le vers antithétique, il y a eu pendant très longtemps un des ressorts majeurs de la poésie française, c'était la dialectique du raisonnement, la dialectique de la raison. Et ça existe toujours dans certaines poésies. Par exemple, dans la poésie allemande contemporaine, sous l'influence de Brecht, chez des poètes comme Heiner Müller, comme Volker Braun et d'autres, une grande part de l'activité poétique consiste dans ce plaisir esthétique particulier qu'est la dialectique du raisonnement. Ça n'est pas le cas dans la poésie française aujourd'hui. Il y a très peu de poètes qui travaillent dans cette direction-là. Il y en a un, et pourtant on ne peut pas lui reprocher d'avoir sous-estimé la part du merveilleux, même si c'est un personnage parfois très contesté, très bon, aimé, parfois haï. C'est Alain Bosquet qui disait que la principale vertu, la grande vertu poétique, ça pouvait être la lucidité. Mais c'est une voie un peu isolée, je trouve. Et je ne veux pas être trop long, donc je vais aller vers ma conclusion, qui est une conclusion en forme d'interrogation et d'ouverture, plutôt. Je pense qu'il y a un point encore sur lequel on a hérité de l'idéologie surréaliste, de son avancée, mais aussi de ses limites. Parce que, comme tout mouvement qui, au départ, est libérateur, au bout d'un moment, il risque de devenir une prison, hein, ou en tout cas de poser lui-même des limites qu'il faut dépasser. Et je vois ça dans une question qui est pour moi centrale, c'est la question de quelle figure de la personnalité humaine porte la poésie. Je m'explique. Globalement, aujourd'hui, en France, on considère que la poésie, chaque poète doit être singulier, original, neuf, parce qu'il y a quand même cette idée que la poésie exprime la part irréductible de la personnalité humaine, de l'individu. Et c'est peut-être justement sur ce point que s'esquisse aujourd'hui un nouveau dépassement de l'héritage du surréalisme, et peut-être l'un des plus féconds. C'est que parmi un certain nombre de jeunes poètes, je pourrais citer plusieurs noms, qui vont de Gérard Noiret à Maram Al-Masri, enfin bon, je pourrais citer des noms divers, on voit s'esquisser une autre conception de la personne humaine, qui repose sur l'idée que, ou qui exprime en tout cas l'idée que finalement, nous ne sommes pas si différents que ça les uns des autres. Nous avons tous à peu près le même paquet de secrets, de fantasmes, de rêves. C'est ce qui fonde la possibilité du partage et du poème, hein, de l'impersonnalité de l'œuvre poétique qui, une fois produite, peut être reprise par d'autres et devenir le bien de l'autre. Et ça me paraît une chose très importante qui nous ramène au surréalisme, mais qui nous ramène singulièrement à l'autre et amont, au l'autre et amont des poésies, hein, de sa conception très impersonnelle de la poésie. En fait, pour me résumer d'une formule, je dirais que toute la modernité poétique française du XXe siècle a été un développement divers, multiforme, riche, de la fameuse phrase de Rimbaud « Je est un autre ». Peut-être que ce qui s'esquisse aujourd'hui, dans un moment historique où l'on ressent, je crois, tous les limites et même les catastrophes où nous conduit le règne absolu de l'individualisme, hein, eh bien, peut-être que s'esquisse l'idée que l'autre est aussi un jeu ou que je est aussi un peu tous les autres. Et je trouve que c'est quelque chose de très fécond qui peut nous conduire à, non pas à abandonner la réflexion sur le surréalisme, mais à y revenir de manière plus critique, peut-être aussi en renouant avec la conception qui était celle d'Apollinaire, tout simplement, parce que, comme chacun sait, le mot surréalisme a été quand même emprunté par les surréalistes à Apollinaire, terme qu'il utilise, lui, dans la préface des Mamelles de Tirésias, mais dans un sens fort différent de celui que lui donnera André Breton et que lui donneront les autres poètes. Il n'y a pas chez Apollinaire cette idée de la lutte contre la logique ou de cette débâcle de l'intellect dont parlait Aragon, Breton et Éluard dans les notes sur la poésie en 36. Apollinaire dit, et je m'arrêterai là, le surréalisme, c'est, je ne vais pas le citer exactement, mais quand même l'image m'a marqué, quand les hommes ont voulu inventer, enfin copier la marche, ils ont inventé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Hein. Donc, dans son esprit, c'est une sorte de super-réalisme. Un réalisme qui, pour transformer le réel, prend les détours de l'invention et de l'imagination. Et je crois que ça, c'est une voie qui n'a pas encore été franchement explorée. Voilà. Merci.
Alors,
Ça a été...
Ça me semble. Merci à Francis Combes donc pour cette traversée du paysage des 50 dernières années où l'image est touchée. Hein, l'image est touchée. L'image est un peu mise en retrait dans ce peut-être refus d'héritage du surréalisme. Je lancerai une hypothèse, mais là, dans la période de questions, j'y reviendrai. Je me demande si le cadavre qui est dans le placard et qui demeure fabuleusement adoré n'est pas celui de Mallarmé, plus que celui caché du surréalisme. Il est plutôt celui toujours présent de Mallarmé. Bon, c'est une autre approche.